frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour.
Heureux de revenir vers vous encore une fois pour partager ces choses que le Seigneur a commencé de nous montrer concernant le lieu secret, concernant le lieu de la rencontre avec lui, le lieu de la communion avec lui, c'est donc que nous appelons la croix. Et nous sommes en train d'étudier l'illustration de la croix dans l'Ancien Testament au travers... nous avons vu pour la première fois le jardin d'Éden, ensuite la bouche du poisson, du grand poisson qui avait avalé Jonas. Ensuite, nous avons vu l'illustration de la croix dans le désert comme étant, la croix comme étant un désert, un endroit de sécheresse, de vide, mais aussi d'hostilité et de danger. Et enfin, nous avons vu la croix dans son illustration en tant que l'arche de Noé, l'arche qui flotte justement, l'arche fabriquée en bois, le bois sur lequel le Seigneur Jésus avait été crucifié, mais qui a flotté au-dessus des eaux alors que les eaux détruisaient une terre de péché, ceux qui étaient dans l'arche et ceux qui seront dans la croix de notre Seigneur Jésus connaîtront le salut. Nous avons vu dans l'enregistrement numéro 5 que la croix a des buts, et le premier but que nous avons vu, c'est que Dieu opère en nous le changement pendant que nous sommes au désert. Pendant que nous sommes à la croix, c'est là que Dieu enlève en nous tout ce qui vient de l'Égypte. Ce temps de désert va durer aussi longtemps que nous portons en nous l'esclavage, l'idolâtrie, les mentalités de notre vie avant notre conversion. Et donc, aussi longtemps que Dieu trouvera en nous des déchets de ce monde, il ne nous fera pas entrer dans la plénitude de la gloire. Certes, nous aurons des visitations dans le désert, il pourvoira l'eau, il pourvoira la guérison, il pourvoira la manne, il pourvoira la sécurité vis-à-vis de l'hostilité des peuples du désert, mais ce ne sera pas la plénitude. La plénitude vient lorsque justement nous avons le cœur pur. David dit qui montera la montagne de l'Éternel, c'est celui qui a le cœur pur, qui verra l'Éternel, c'est celui qui a le cœur purifié. Et donc, il nous faut d'abord être purifiés, et le désert a cette faculté justement de nous purifier de toute souillure. C'est pour cela que le Seigneur a institué la croix. C'est l'endroit où nous pouvons aller à sa rencontre. Nous allons poursuivre avec le but de la croix. Et aujourd'hui, nous allons parler particulièrement de la croix dans sa dimension de l'union avec Dieu. C'est fou, mais... nous pouvons chercher comment nous unir avec Dieu. Nous pensons à la prière, nous pensons au jeûne, nous pensons à beaucoup d'autres choses. Mais ce qui est important et intéressant à comprendre, ce que Dieu a prévu de nous rencontrer et de s'unir avec nous, c'est lui-même qui a préparé le lieu de la rencontre. Et cette union va se passer avec nous à la croix. Mais avant d'aborder le sujet, je reviens encore une fois sur la croix en lien avec le désert. Nous pouvons voir... ce que Jean-Baptiste rend comme témoignage du Seigneur Jésus. Jean, chapitre 1, verset 19, on nous le rapporte là-bas. Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu ?» Verset 20, il déclara, et il n'y a point, il déclara qu'il n'est pas le Christ. Verset 23, « Moi, dit-il, je suis la voix qui crie. » Qu'est-ce que la voix crie ? Dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Vous vous souvenez, nous avons lu ça la fois passée. Ésaïe le prophète a dit, allez dans le désert, allez dans les lieux arides, et là, aplanissez les voies du Seigneur, préparez le chemin pour rencontrer le Seigneur. Dans les lieux arides, dans le désert. Et Jean dit, c'est le témoignage qu'il a, c'est pour ça qu'il est venu. Verset 26. Jean leur répondit, « Moi, je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y en a un que vous ne connaissez pas et qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. » Verset 29, « Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, « Voici l'agneau qui ôte le péché du monde. » Il y a donc un lien direct entre la préparation dans le désert de l'arrivée du Seigneur et le fait que c'est là-bas, quand le Seigneur va venir, qu'il va ôter le péché. Donc, c'est le péché ici, c'est d'abord les mentalités, l'esprit, la pensée dans laquelle nous avons vécu jusque alors. Si vous avancez un peu plus loin jusqu'au verset 32, Jean rendit ce témoignage, j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter. Vous voyez très bien, donc il y a aller dans le désert, il y a rencontrer le Seigneur, et puis il y a la plénitude du Saint-Esprit qui arrive. C'est tellement direct, il y a tellement pas à tergiverser. L'union avec le Saint-Esprit ne peut pas se passer si d'abord nous ne sommes pas dans le désert pour aplanir les voies du Seigneur, si nous ne sommes pas dans les lieux arides, si nous ne nous repentons pas, si nous ne changeons pas nos mentalités, si nous ne faisons pas baptiser d'eau, nous ne pouvons pas être baptisés du Saint-Esprit. Donc, le témoignage de Jean-Baptiste ici, c'est « Voici l'agneau qui ôte le péché ». Et donc, lorsque nous sommes dans le désert, le travail de l'agneau, nous l'avons vu la fois passée, le travail de l'agneau, c'est de ôter le péché. Ça veut dire de ôter ce qui, dans nos pensées, génère la connaissance du bien et du mal, et donc la mort. Et installer maintenant la vie, le Saint-Esprit, le royaume de Dieu, l'arbre de la vie, qui est Christ lui-même. Le même Jean va nous introduire à notre sujet d'aujourd'hui, c'est-à-dire la rencontre avec Dieu se passe aussi dans le désert. Alors, nous allons voir Jean chapitre 3. Jean chapitre 3 au verset 22. Je vais résumer ce qu'un désert s'est installé maintenant dans la vie de Jean-Baptiste. Lui qui avait un grand ministère avec des foules qui le suivaient de partout pour suivre ses enseignements, pour être baptisé dans le Jourdain. Maintenant, il a de moins en moins de personnes et le désert s'est installé dans le ministère de Jean-Baptiste. Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit dans la terre de Judée et là, il demeurait avec eux et il baptisait. Jean aussi baptisait à Aenon, près de Salim, parce qu'il y avait beaucoup d'eau. Et on y venait pour être baptisé, car Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, il se leva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant à la purification. Il vint trouver Jean et lui dire, « Rabbi, celui qui était avec toi, ça veut dire Jésus, au-delà du Jourdain, et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise et tous vont à lui. » Donc, Jean qui avait beaucoup de gens qui venaient se faire baptiser à Aenon, parce qu'elle avait beaucoup d'eau, voit maintenant qu'il a de l'eau, mais les gens ne sont plus, les gens vont vers Jésus. Et les Juifs sont venus justement narguer un peu Jean pour dire, « Mais tu ne vois pas que Jésus est en train de te voler un peu la vedette. » Alors il demande à Jean, mais qu'est-ce qui se passe? Lui aussi est en train de baptiser et les gens vont à lui. Verset 27. Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin que je vous ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi, cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais il verra la colère de Dieu demeurer sur lui. Amen. Voici donc ce témoignage dans lequel il y a beaucoup que nous pouvons puiser. Mais nous allons prendre juste le verset 29. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Donc Jean qui a rendu témoignage qu'il faut aller dans le désert pour préparer la voie du Seigneur. Jean qui a rendu témoignage que Jésus est l'agneau de Dieu. Le même Jean rend maintenant témoignage que là, dans le désert, où il aura ôté le péché, ce ne sera pas tout. Il y a aussi les noces qui vont se passer là-bas. Il parle ici de l'époux et de l'épouse. C'est comme ça que lui ne peut plus garder l'épouse qui était en préparation. Maintenant, les gens doivent le quitter et aller à Christ. Il faut que Jean diminue pour que Christ croisse. Très sincèrement, la croix, dans son illustration en tant que désert, dans son illustration en tant que retour vers l'Éden, se trouve être le lieu de la rencontre avec Dieu. Et si vous regardez toutes les activités que le peuple juif, le peuple hébreu, a eu avec Dieu pendant la traversée du désert, il n'était question pour Dieu que d'une nouvelle communion avec son peuple. Il commence par dire « Moïse, prends mon peuple, amène-les à moi dans le désert pour que je puisse célébrer avec une fête. » On ne fête pas avec ses ennemis, on fête avec les gens avec qui on a une relation intime, une relation d'amitié, d'amour. Alors, deuxièmement, tout ce que Dieu va instituer, l'arche de l'alliance, c'est pour une alliance. Dieu va instituer la tente d'assignation, la tente de la rencontre avec lui. Dieu va instituer le sacrifice pour ôter le péché, ça veut dire les moyens de se réconcilier avec lui. Tout ce que Dieu va instituer au cours du désert, de la préparation de la sortie du désert jusqu'à la terre Canaan, ne tourne que autour de l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour. Dieu illustre une fois qu'il ne veut pas travailler avec son peuple sur base de la colère, ça veut dire la loi, mais il veut travailler avec le peuple sur la base de l'amour, ça veut dire la grâce. Et malgré leur rébellion, malgré que Dieu va leur démontrer à plusieurs reprises que en venant sur le terrain de la colère, en venant sur le terrain de la justice seulement, sans la grâce, en venant sur le terrain de la loi, ils ne réussissent pas à communier avec lui, ils ne réussissent pas à s'épanouir eux-mêmes. Mais en venant sur le terrain de la foi, sur le terrain de la grâce, sur le terrain de la justification, ça veut dire que c'est Dieu qui nous justifie, là maintenant, il y a la vie, il y a la guérison, il y a de l'abondance, il y a de la joie, il y a de la fête, il y a de quoi célébrer le monde. Et donc, la croix, c'est l'endroit de l'union, c'est l'endroit où nous recommunions avec Dieu et nous pouvons l'appeler maintenant notre Père. Il n'est plus seulement aux cieux, maintenant sa volonté est venue, son règne est venu, il communie avec nous. Il a dit dans le peuple, j'habiterai au milieu de mon peuple. Au milieu là, ça veut dire qu'individuellement, il va habiter dans la moelle épinière, il va habiter dans le cerveau, il va habiter dans le cœur, il va habiter dans le lieu secret, là à l'intérieur, et ensuite sortir à l'extérieur. Corporativement, ça veut dire dans un couple, dans une amitié, dans un contrat de travail, dans une relation business to business, ou business to client, dans des relations entre états, dans des relations entre ethnies, peu importe comment vous ou entre associés, etc. Dieu va être l'arche de l'alliance entre les chérubins. Il va ramener la relation de face à face où on se regarde en toute vérité, on se reconnaît tel qu'on est nu, comme au commencement en Éden, et on peut recommunier à nouveau. C'est pourquoi vous verrez sur l'arche de l'alliance, il y avait deux chérubins qui se regardaient face à face. C'était pour remontrer qu'il est question d'une union nouvelle avec Dieu. Et ça se passe où? Dans le désert. En dehors du désert, il n'y en a pas. En dehors du désert, il n'y a pas d'arche de l'alliance. Tout se passe dans le désert. Et donc, c'est à la croix que nous avons une nouvelle alliance avec mon Dieu. Nous recommunions avec ton Dieu et nous recommençons une union nouvelle. Voici une illustration que j'aime bien, que le Seigneur utilise beaucoup pour m'enseigner cette vérité. Je vais commencer avec la plante. Vous avez un grain qui quitte les cieux, qui transporte toute la gloire qui vient du ciel, puisque la graine vient du ciel, toute la gloire de la plante qu'il a engendrée. Par exemple, si c'est un grain de blé, et il tombe sur la terre, il vient sur la terre. Il va rencontrer la terre qui n'a pas la valeur de blé, qui n'a pas la nature de blé, qui n'a pas la beauté du blé, qui n'a pas tout ce qu'il y a comme faculté dans le blé. Et il va s'unir. En ce moment-là, la terre va quitter la terre, va mourir à la vie de la terre, va être crucifiée à la vie de la terre pour commencer la vie de blé. Le blé va mourir dans sa vie du ciel, dans sa vie de graine, va communier avec la terre pour devenir une nouvelle plante. Chacun d'eux va monter le niveau. Le grain va devenir une plante, la terre va devenir une plante et les deux sont devenus même chair. Mais il faut que la terre soit morte dans sa vie de terre, que le grain meure dans sa vie de grain, que les deux s'unissent et à partir de là, il commence une nouvelle vie. L'apôtre Paul dit, ne savez-vous pas que celui qui s'unit à la prostituée devient avec elle même chair? Même celui qui s'unit au Seigneur devient avec lui même esprit. Et cela se passe où? Cela se passe dans le désert, c'est-à-dire à la croix. C'est là que s'opère justement la transformation dont nous avons besoin. Donc, la croix, c'est aussi le lieu de l'union de résurrection avec le Seigneur Jésus. Alors donc, pour saisir ce mystère de l'union par la croix, nous allons donc lire Éphésiens au chapitre 2, à partir du verset 4. Donc, prenons le verset 3. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature enfants de la colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous étions morts par nos offenses. Vous voyez, on est là à la croix. La croix nous condamne, la croix nous fait savoir que nous sommes morts. Regardez les problèmes dans lesquels vous êtes, vous verrez qu'il y a une part de condamnation de vous dans le problème dans lequel vous êtes. Dieu nous a rendus à la vie avec Christ. Ah ah, il y a maintenant là l'union avec Christ. Maintenant, nous quittons notre stade d'être terre, nous commençons la vie de blé. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Vous voyez, c'est pas par la loi, c'est pas par votre justice, c'est par grâce. Verset 6, il nous a ressuscités ensemble. Maintenant, nous sommes unis. Christ n'a plus de vie en lui-même. Nous n'avons plus de vie en nous-mêmes. Nous sommes maintenant devenus un seul esprit. Nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc, l'union de résurrection, c'est cela. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est uni avec nous par la croix. Lorsque nous mourons à notre vie d'avant, lui meurt à sa vie d'avant. Et ensemble, nous nous mettons en union de vie avec lui et nous allons vers le ciel. Le Seigneur le dit quelque part, il dit, si le grain de blé tombé en terre ne meurt, il ne meurt seul. S'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et donc, il est mort, lui le grain de blé. Nous qui sommes la terre, nous sommes morts. Maintenant, nous commençons une vie de résurrection. La même illustration, vous pouvez aussi la trouver dans le mouvement de l'ovule. Vous voyez, l'ovule a sa vue d'ovule, mais à partir d'un certain moment, elle entre dans une dynamique qui fait qu'elle s'avance vers le spermatozoïde, se met en mouvement vers l'ovule. Dès que l'union commence, l'ovule abandonne sa vie d'ovule et va vers une vie meilleure, une vie d'embryon, une vie qui va devenir un être humain. Et là, de même, le spermatozoïde quitte sa vie de spermatozoïde, il meurt et nourrit maintenant l'ovule pour donner à l'ovule la vie d'embryon, la vie de l'enfant, la vie d'un jeune homme, la vie de personne, la vie de quelqu'un qui va se reproduire, porter et reproduire la race humaine. Et donc, ces deux illustrations nous permettent de savoir l'intérêt de la croix, c'est de mourir à soi-même pour commencer une vie plus excellente que la vie qu'on avait avant la crucifixion. Donc notre invitation dans le désert, c'est pour quitter, prendre les Hébreux qui n'étaient pas un peuple, les faire traverser dans le désert et en faire une nation. C'est prendre Jonas qui était un homme en dessous du standard divin pour ce qui concerne la grâce, l'emmener à quelqu'un qui va aller proclamer la grâce de Dieu à un peuple étranger. C'est ramener Adam qui était tombé en Éden, le ramener à la maison, dans la présence de Dieu, là où était le lieu de délice, la communion avec Dieu. C'est vraiment retourner vers la terre promise, vers l'Éden, vers notre maison, vers notre Père. C'est cela la croix, c'est l'endroit où nous entrons en union, en communion avec notre Seigneur. Nous mourrons avec lui, et si nous mourrons avec lui, nous ressusciterons avec lui. Si nous ressusciterons avec lui, alors nous serons avec lui dans la gloire. Nous pouvons retrouver ça dans Romains chapitre 14, verset 8. Car si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons pour le Seigneur. Si donc nous vivons, soit nous mourions, nous sommes au Seigneur. Car Christ est mort et il a vécu afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Voilà. C'était notre partage de ce jour sur l'autre but de la croix. Le premier, c'est d'ôter le péché, c'est de nous transformer, de nous rendre semblables à lui, d'enlever en nous les traits de l'ancienne vie pour commencer la nouvelle vie, la vie de Jérusalem, de la Jérusalem d'en haut en nous. Le deuxième but, c'est maintenant de recevoir sa vie, d'entrer en union avec lui, et nous parlerons dans les prochains partages de la désobéissance et de la croissance comme c'était promis dans l'enregistrement numéro 5. Je vous bénis pour que ce que vous avez entendu puisse porter du fruit à la gloire de notre Dieu et vous encourage à méditer sur ces choses, à prier pour que la parole se fasse chair, pour que vous discerniez dans les circonstances où est le chemin resserré qui mène à la vie, où est la croix et que vous prospériez non pas en fuyant la croix, mais en répondant à l'invitation que le Seigneur Dieu nous donne pour le rencontrer, pour être sauvé, pour être livré et pour vivre la vie éternelle qu'il a préparée pour nous. Amen.